Épisode 15, la Victoria.
Mutini laban kay Magellan pagpitay sa mga pinuno na wasak ang isang barko.
Takas, puslit pabalik sa Espanya ng isang barko.
La Mar Pacifico, Nobyembre 1520, paglaut sa malawak ng Pacific Ocean, maraming namatay sa gutom at sakit.
Estrelas, Enero 1521. Kakaibang langit sa timog.
Les hommes qui vivent là sont sauvages. Ils mangent la chair humaine. Mon point de roi, ils vont nus, et leurs arcs et leurs flèches sont de canne. Et ils transportent leur nourriture dans des sacs faits de feuilles d'arbres. Nous prîmes avec nous pour pilote un habitant de cette île, qui nous fit comprendre par des signes et par certains mots que nous comprenions que près d'ici se trouvait l'île d'Aruchet. Là vivaient des hommes et des femmes les plus étranges qui soient. Ils ne sont pas plus grands qu'une coudée, et leurs oreilles sont aussi grandes qu'eux. De l'une, ils font leur lit, et de l'autre, ils se couvrent. Ils vont tondus et tout nus. Ils ont la voix grêle et habitent dans des cavernes sous terre. Le dimanche, 26e jour de janvier de 1522, nous arrivâmes en une autre île. Elle se trouve à 10 degrés de latitude au pôle Antarctique et de 164 degrés et demi de longitude de la ligne de répartition. Elle se nomme Timor. Notre vieux pilote, Francisco Albo, d'origine française, connaissait les usages et coutumes de Java. Il nous raconta que lorsqu'un des notables de cette île est mort, on brûle son corps. Sa principale épouse, parée de chapeaux de fleurs, se fait porter par quatre hommes sur un siège par toute la ville, puis, étant au lieu où l'on brûle le corps de son mari, elle se tourne vers ses parents, les réconforte une dernière fois et se jette dans le feu. Il nous raconta que, lorsque les jeunes gens de Java sont épris de quelques gentilles dames,
épris de quelques gentilles dames. Il se lit certaines petites sonnettes avec du fil sous la peau de la tête de leur sexe, puis vont sous la fenêtre de leurs amoureuses et font semblant d'uriner en secouant leurs membres et font sonner ses clochettes jusqu'à quand leurs amoureuses en oeillent le son. Lesquelles descendent les rejoindre et ils font, en prenant leur plaisir ensemble, toujours sonner ces clochettes, pour ce que les femmes ont grande délectation à sentir de dans leur nature sonner ces clochettes.
Kinatay ang alay, tumalo si Pigafetta sa pagsamba ng mga babaeng pare sa Diyos ng mga taga-pulo.
Mactan, si Lapu-Lapu, Abril 1521, paghamon ni Lapu-Lapu, lumusob ang mga Espanyol sa Mactan, pagkapatay kay Magellan.
Taksil, Mayo 1521, kasapakat ng aliping ni Magellan, pagpatay ng mga Espanyol, pagtakas ng mga buhay pa.
Sinunog ang barko sa tabi ng Bohol, pagkubli sa pulo ng kipit sa Sindangan Bay, sa hilaga ng Zamboanga.
Le cap de Malacca est à 1 degré et demi à l'Antarctique. À l'orient de ce cap, au long de la côte, se trouvent les villes et cités se nommant Chingapola, qu'on appelle également Singapour, Pahan, Kalantan, Brabi, Banga et Yudi. Celle-ci est la ville où se trouve le roi de Siam, appelé Siri. Après Siam, on trouve Kamedia, que l'on appelle aussi Cambodia.
Plus loin, on trouve le pays de Cochi, et plus loin encore, la grande Chine dont le roi est le plus grand roi du monde. Il se nomme Santoa Raya. Ce roi tient 70 autres rois couronnés sous lui, et certains d'entre eux, à leur tour, tiennent des rois sous eux. Il y a 4 ministres près de son palais, l'un vers le levant, l'autre au ponant, l'autre au midi et l'autre au tramontin. Tous les rois et seigneurs des Indes obéissent à ce roi, et si quelque seigneur est désobéissant à ce roi, il est fait écorcher et sa peau est séchée au soleil avec du sel. Ensuite, ils l'emplissent de paille et le font tenir la tête basse et les mains jointes sur la tête. Après, ils le mettent en un lieu bien apparent sur la place publique, afin qu'on le voie pour l'exemple. Les gens de Chine sont blancs et vêtus, et ils mangent sur une table comme nous. En cette Chine croît le musc, dont la bête est un chat sauvage. Quand ils veulent faire le musc, ils attachent une sangsue au chat et la lui laissent attacher jusqu'à ce qu'elle soit pleine de sang. Puis ils la pressent dans un plat et mettent le sang au soleil 4 ou 5 jours. Puis ils le trempent dans l'urine du dit chat et le remettent autant de jours au soleil et ainsi le musc devient parfait. Le musc et le chat se nomment Castori et la sangsue se nomme Linta.
La nuit du mardi au mercredi, 11e jour de février 1522, parti de Timor et sous les ordres de Sébastien del Cano, nous entrâmes en la Grande Mer et prenant notre route entre Ponant et Garbin, laissâmes Sumatra à main droite au Tramontin par crainte de la flotte portugaise qui nous recherchait. Puis ce furent les îles Pegu, Bangala, Ceylan, puis le golfe d'Ormuz de l'autre côté de la Grande Inde.
En Inde sont 6 sortes d'hommes que l'on appelle les castes. Ce sont les Nahiri, les Panchali, les Iranais, les Pangélini et les Macaoé et Polidi. Les Nahiri sont les principaux, les Panchali sont citoyens. Ces 2 sortes de castes, les Panchali et les Nahiri, fréquentent ensemble. Les Iranais cueillent le vin des palmes et des figues, les Pangélini sont mariniers, les Macaoé sont les pêcheurs. Les Polénis sèment et cueillent le riz, et ceux-ci habitent toujours dans les champs et jamais n'entrent dans aucune cité.
Ensuite, nous allâmes jusqu'au 42e degré du pôle Antarctique. Nous demeurâmes sous ce cap 9 semaines, avec les voiles ployées par le vent occidental et le mestral que nous avions par proue. Ce cap est de latitude au 34e degré et demi, et à 1060 lieues du cap de Malacca. C'est le plus grand et périlleux cap qui soit au monde. Finalement, avec l'aide de Dieu, le 6e du mois de mai 1522, nous passâmes ce cap. Nous naviguâmes le Mestral pendant 2 mois continus, sans prendre aucune chose fraîche et repos. En peu de temps moururent 2 des nôtres. De ceci, quand nous les jetions à la mer, les chrétiens allaient au fond, le visage dessus vers le ciel et les indiens, toujours le visage en dessous. Enfin, nous arrivâmes aux îles du Cap-Vert. C'était le mercredi 9e de juillet. Nous étions à Santiago. Ces îles étaient portugaises. La famine à bord ne nous laissa pas le choix. Nous envoyâmes le bateau à terre. Nous avons dit aux Portugais que notre trinquet s'était rompu sous la ligne équinoxiale, quoiqu'elle le fût, sur le cap de la Bonne-Espérance, et que notre capitaine général, avec 2 navires, s'en était allé devant en Espagne. Nous eûmes 2 bateaux pleins de riz, et nous ordonnâmes au nôtre, qui est allé à terre, qu'il demandasse quel jour nous étions. Il leur fut répondu que nous étions jeudi, ce dont nous fûmes ébahis, parce que pour nous, c'était mercredi. Soit les Portugais nous mentaient, soit nous nous étions trompés. Ce mystère ne devait être élucidé que quelque temps plus tard, lorsqu'un géographe m'expliqua que, tout comme fait le soleil, nous avions toujours fait notre voyage par l'Occident et retourné au même lieu de départ. Ainsi, le long voyage autour de la Terre avait emporté l'avantage de 24 heures. À l'escale de Santiago, les 2 premiers voyages de notre chaloupe purent s'effectuer sans difficulté. Mais au 3e, l'un des nôtres se mit à bavarder. Il raconta que notre navire était rescapé de la flotte de Magellan. Aussitôt, l'équipage de la chaloupe, 13 des nôtres, fut retenu prisonnier des Portugais. Et notre capitaine, Sébastien del Cano, voyant qu'il ne revenait pas, comprit le danger et ordonna que nous levions l'ancre.
Na kabuta sambarkon Trinidad, pinasok ng tubig, na iwan sa tidor, umalis sambarkon Victoria, 47 na lamang ang sakay.
Pulo ng mga unano ang mga kanibal sa pulo ng Sula Besi, ang pagkain ng suman at langka.
Lundi, le 6 septembre 1522. Nous vîmes apparaître la côte de l'Andalousie, les maisons blanches escarpées, puis Sanlúcar de Barrameda, ses maisons basses, et l'embouchure du Guadalquivir dont les eaux brunes se jettent à la mer. Nous remontâmes le fleuve. Des gens vinrent à bord, nous demander qui nous sommes. Aussitôt le bruit se répandit. La flotte de l'amiral revenait de son tour du monde. Nous n'étions plus que 18 hommes. Des 60 parties des Moluques. Les uns étaient morts de faim, les autres étaient restés à Timor, où s'étaient enfuis. D'autres encore avaient été punis de mort pour leur délit. Nous avions couvert 14 460 lieues et accompli le cercle du monde du levant au ponant. Et nous étions dans une telle misère. Je voudrais revenir sur nos compagnons, ceux embarqués sur la Trinidad, que nous avions laissés à Tidor, le temps de réparer leur nef. Nous les avions quittés le 21 décembre de l'année 1521. Ils étaient sous les ordres de Gomez de Espinosa. Il était originaire de Burgos et avait embarqué en qualité de grand officier de justice. C'était un fidèle de Magellan. Le 6 avril 1522, chargé de 50 tonneaux de clous de girofle, la Trinidad quitta Tidor, pendant que nous-mêmes voguions à l'approche du cap de Bonne-Espérance. Espinosa estima à 1800 lieues la distance qui le séparait des nouvelles possessions espagnoles au sud de Panama. Ils emmenèrent un indigène comme pilote, puis ils se lancèrent dans l'océan. Les vivres s'épuisèrent, une maladie mystérieuse frappa l'équipage et tua nombre de compagnons. Dans les intestins de leurs cadavres, on retrouva un horrible ver qui dévorait leurs entrailles. Ils remontèrent jusqu'au 42e parallèle. Ils connurent le froid, la tempête. Les châteaux d'arrière et d'avant du navire furent détruits, le grand mât brisé. Juan de Espinosa décida de retourner aux Moluques, qu'il ne regagna que 6 semaines plus tard. Mais c'était pour apprendre une triste nouvelle. Une flotte portugaise de 7 navires avait mouillé devant Ternate. Il n'y avait plus à bord de la Trinidad que 24 rescapés, dont seuls 7 étaient valides. Espinosa décida qu'il fallait demander secours aux Portugais, qui, quoique ennemis, devaient les considérer comme de bons chrétiens et les recevoir avec charité. Gomez de Espinosa et ses amis furent faits prisonniers par le chef d'escadre portugais. Ils furent jetés à fond de cale, et au bout de 4 mois, ils furent déportés à Banda. Les 17 survivants séjournèrent encore dans une prison à Cochin, avant d'être transférés à Lisbonne. 5 d'entre eux restèrent dans les Moluques, où ils furent employés comme charpentiers à la construction des navires. Gomez de Espinosa demeura encore 7 mois en prison, à Limoneiro, au Portugal, en compagnie de ses compagnons Mafra, Pancaldo le pilote et Juan Rodriguez de Séville. Il fallut l'intervention de notre empereur et roi, Charles Quint, pour obtenir leur libération. À bord de notre Victoria, le capitaine Sébastien Del Cano donnait ses derniers ordres. Et le 8e de septembre 1522, nous boutâmes l'ancre près du môle de Séville. Nous déchargeâmes toute l'artillerie. Le mardi, descendant à terre, tous en chemise et pieds nus, nous allâmes en pénitence, chacun avec une torche à la main, visiter le lieu de Sainte-Marie de la Victoire. Nous n'étions plus que 18 hommes, couverts de guenilles. Voici les noms de nos survivants. Mais qui oubliera ceux qui sont morts en voyage? Se tuer en terre de Brésil, se tuer lors des fortunes de mer, ceux qui ont rendu leur âme étant morts de faim ou de maladie lors de la traversée de l'océan. Qui oubliera nos valeureux restés à Tidor, les 4 survivants de la Trinidad, captifs des Portugais, et les 13 faits prisonniers dans les îles du Cap-Vert? Et qui oubliera notre capitaine général, mort sur les plages de l'île de Matane, et qui sacrifia sa vie pour sauver ses compagnons? Son revenu vivant à bord de la Victoria, notre capitaine, Juan Sebastián Del Cano, le premier pilote, le français Francisco Albo, le second pilote, Miguel de Rodas, le contremaître, Juan de Acurillo, le bailli, Martin de Judicibus, un génois, notre bombardier, Hans, un allemand, Diego Gallego, marin de Galice, Nicolas, originaire de Naples, Francesco Rodriguez, marin portugais, Miguel Sanchez de Rodas, Juan Rodríguez de Majorque, Anton Hernández Colmenero, né à Huelva, le mousse Juan de Aritia de Bilbao, le mousse Juan de Santander, natif de Cueto, le mousse Vasco Gomez Gallego, portugais, le page Juan Zubileta, le plus jeune de nous tous. Il était de Baracado et avait à peine 16 ans. Et enfin, notre barbier, Hernando de Bustamante, originaire d'Alcantara. Notre capitaine Delcano reçut des mains de l'empereur les armes représentant le globe terrestre, ainsi qu'une pension de 500 ducats. Quand l'empereur décida d'armer une nouvelle flotte, le commandement fut confié à Garcia de Loisa et Delcano fut nommé commandant en second. Il mourut au cours de ce second voyage et par testament légua sa grande fortune à son fils naturel, Domingo Delcano, héritage réversible sur la tête de sa mère, une sainte femme qui fut la lumière de la vie mouvementée de ce grand marin. Quant à moi, Antonio Pigafetta, une fois débarqué à Séville et tous honneurs rendus, je me rendis à Valladolid, où je présentais à la majesté sacrée de Monseigneur Charles un livre écrit de ma main, traitant de toutes les choses passées de jour en jour en notre voyage. Sa majesté envoya à son frère, l'archiduc Ferdinand, diverses relations de notre voyage, et l'archiduc en avisa mon maître, le nonce apostolique Francesco Cericati. La rumeur courut, me prétend d'être à la tête d'une immense fortune rapportée des îles. Je laissais à croire à cette légende, alors qu'en vérité, je n'avais même plus de vêtements à me mettre. Je me rendis au Portugal, où je parlais au roi, Monseigneur Jean, des choses que j'avais vues. C'est là, à la cour, que j'appris que certains de nos compagnons embarqués sur la Trinidad avaient été faits prisonniers. Ils croupissaient dans de lamentables cachots. Tant le Portugal, craignant toutefois de les tuer, désirait du moins les soustraire au monde de peur que la nouvelle de la découverte d'une route inédite vers les Moluques ne brisât leur ancien privilège. Repassant par l'Espagne, je fis connaître leur sort à Sa Majesté Monseigneur Charles, qui instamment pria son cousin de leur permettre de recouvrer leur liberté. Parmi ces prisonniers, Gomez de Espinosa, très fidèle serviteur de Magellan, que l'empereur honora à son retour en lui accordant une rente à vie et un blason où figurent 5 îles et leurs arbres à clous de girofles. Puis je vins en France. Ma réputation m'avait précédé. N'étais-je pas, aux yeux de tous, un homme immensément riche ? Je fus reçu par Madame la Régente, mère du très chrétien roi, Monseigneur François. Je lui fis don d'une copie de mon livre. À l'écoute de mon récit, la cour de France fut saisie d'effroi. Elle comprit soudain quelle puissance émanait de la couronne de l'empereur Charles. L'on pouvait en effet circonvenir la terre sans jamais quitter une seule fois le sol d'Espagne, dont la légitimité s'étendait depuis le Yucatan à la Floride, du Venezuela à la Terre de Feu, du Pérou aux îles Philippines et Moluques, jusqu'au royaume de Naples et de Sardaigne, incluant les Flandres et l'Allemagne, dont les princes l'avaient élu empereur. La France craignait pour sa survie en tant que nation, ayant à ses portes un voisin si puissant qui l'encerclait de toutes parts et qui tirait richesse des continents nouveaux qu'il venait de conquérir. Après quoi, je vins en Italie. Je me rendis chez la marquise Isabelle de Mantoue, la sœur d'Alphonse Ier, le duc de Ferrare. La réception en mon honneur fut princière. Je promis au marquis de Mantoue de terminer vitement le récit de mon voyage et de lui en offrir un exemplaire. Puis je me rendis à Venise, où le doge, Andrea Gritti, me reçut en son palais. Ma chronique fit une telle sensation que l'écho en parvint à sa sainteté le pape, Clément VII, qui me pria de venir à Rome. Ainsi, en janvier 1524, je me rendis en la capitale de la chrétienté. La route me fit passer par Monterossi. En ce château, je rencontrai Philippe de l'Isle-Adam, grand maître de Rhodes. Il naquit, dès notre rencontre, une amitié profonde. Arrivé à Rome, je me mis au service du souverain pontife qui me promit de faire imprimer mon récit. Mais les semaines passèrent sans qu'il se produisît rien. Je me pris à penser que le Saint-Père ne désirait pas tant éditer mes écrits, malgré les émerveillements qu'il avait suscités. Le Saint-Siège se scandalisait-il des mœurs des naturels que nous avions rencontrés? Ou craignait-il que notre voyage ébruite ce que tous les marins savaient déjà, c'est-à-dire que la Terre fut ronde? La différence d'une journée en notre faveur que j'avais relevée dans le calendrier, à l'issue de notre voyage, prouvait que la Terre tournait bel et bien, ainsi que plusieurs géographes l'affirmaient. On me fit comprendre que les temps n'étaient point mûrs pour répandre de telles nouvelles. Je ne pouvais rester à Rome, mais craignant que mon départ fût perçu comme une désobéissance au pape, je m'en remis à Monseigneur de l'Île Adam, commandeur et grand maître de l'ordre de Jérusalem. Il me conseilla de rejoindre cet ordre, ce que je fis promptement. Il m'en fit nommer chevalier. Certains me surnommèrent le chevalier errant, en raison de mon tour du monde. Il m'accorda le bénéfice ecclésiastique de Norcia et de Todi, et quelques dépendances. Libre, désormais, sous sa protection et l'égide d'un ordre prestigieux, de rédiger, d'éditer et publier mon livre, je le dédiais à mon nouvel ami. Et au mois d'août 1524, le marquis de Mantoue fit imprimer mon histoire. Le Sénat de Venise m'accorda le privilège de sa publication pour 20 ans. Elle parut sous le titre
Relazione del primo viaggio intorno al mondo, Antonio Pigafetta, Patrizio Vicentino e Cavalier di Rodi, all'illustrissimo signor Villiers de l'Isle-Adam, Gran Maestro di Rodi, signor suo osservatissimo.
Le premier tour du monde, par Antonio Pigafetta, chevalier de Rhodes, compagnon et lieutenant de Fernão de Magalhães.
Unum pagdaio sapinas et unum pagigot samundo. Relation del primer viajador del mundo.
C'était Magellan, le premier tour du monde, avec Di Meo Giovanni, Antonio Pigafetta, Frédéric Thomas, Antonio Pigafetta, voix française, Léon Acunes, Francisco Albo, Carlo Tessado, voix du garçon, Kimberly Estayo, voix de la fille.